autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
Pourquoi ça nous touche?
Caroline Lechowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation, pour célébrer tous les chercheurs et chercheuses engagés pour un développement durable et partagé au Sud et pour tous les Suds, de l'Afrique à l'Asie, en passant par l'Amérique latine, autant de continents où est présent l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, qui fête toute cette année 2019 ses 75 ans d'existence. Et le sacré chemin parcouru de l'Orstom à l'IRD, d'une science coloniale à un partenariat scientifique équitable. De l'aide au développement à l'analyse critique de ce développement pour promouvoir une science de la durabilité et de l'équité. Mais comment relever les défis d'une telle recherche collaborative, ouverte et partagée, du nord au sud et du sud au sud? Car il y a urgence. Comment soutenir et impulser les meilleurs? Comment leur donner les moyens de mener à bien leurs recherches? Voilà ce que nous allons demander à l'actuel président de l'IRD, Jean-Paul Moati, avec les témoignages croisés des chercheurs et chercheuses impliqués sur tous les continents, autour de la question qu'elle recherche au Sud et pour les Suds. Bienvenue. Bonjour Jean-Paul Moati.
Bonjour Caroline, bonjour à toutes et à tous.
Merci d'être en direct avec nous pour mettre en question et célébrer 75 ans de recherche au Sud, menée et soutenue par l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, dont vous êtes le président directeur général. Rappelons, Jean-Paul Moati, que vous êtes professeur en économie de la santé. Vous avez consacré l'essentiel de vos recherches à la lutte contre les pandémies et à la réduction des inégalités socio-sanitaires dans les pays du Sud. Très investi aujourd'hui dans le concept de santé globale, on y viendra. Vous êtes également le seul Français membre du groupe d'experts scientifiques chargé par l'ONU du rapport sur le développement durable en 2019, une année décidément chargée pour vous puisque vous avez choisi de célébrer les 75 ans de l'IRD avec de nombreux événements et manifestations, à Paris d'abord puis à Dakar cet automne. Un ouvrage, Science et développement durable, 75 ans de recherche au Sud, reprend également les contributions les plus significatives conduites par l'IRD et ses partenaires en 75 ans, tout à changer, à commencer par la manière dont on fait de la science au Sud, Jean-Paul Moati.
Oui, et ces dernières années, j'ai eu l'occasion dans plusieurs de nos pays partenaires, en Tunisie, à Madagascar, en Amérique latine, de fêter les 60 ans, 70 ans, 50 ans de présence de nos chercheurs dans ces pays. Et ce qui m'a frappé, impressionné, c'est que les collègues scientifiques de ces pays assument totalement l'histoire commune qu'ils ont avec nous. Et il faut rappeler que l'IRD, enfin l'ancêtre de l'IRD, c'est même pas l'Orstom, c'est l'Office de la science coloniale, ça s'appelait comme ça, sans complexe, qui est créé en 1944 par le gouvernement issu de la résistance et du général de Gaulle. Et c'est vrai qu'au départ, c'est une institution qui va jeter les bases des connaissances scientifiques dans des domaines comme ceux des sols, de l'hydrologie, et puis ensuite des sociétés... de la biologie végétale et humaine et créer des corpus qui vont être très utiles encore aujourd'hui à nos collègues de ces pays, mais en même temps dont la mission était quand même d'aider à mieux exploiter les ressources de nos anciennes colonies, principalement tout de même au profit de la métropole. Et ce qui fait que c'est finalement une grande fierté pour moi de terminer ma carrière à la tête de l'IRD, c'est que petit à petit, cette institution, peut-être parce qu'on l'y a poussé du fait des relations que nous avons avec nos collègues sur le terrain, s'est transformée un peu en l'exact contraire, d'une institution coloniale, c'est-à-dire un organisme de recherche dont la mission est le partenariat scientifique équitable avec nos collègues des Suds.
Oui, un réseau de collaboration que vous avez monté de partenaires pour le bien commun. Votre colloque anniversaire en février dernier au musée du Quai Branly à Paris se mettait lui-même en question finalement autour de cette question, quelle science pour soutenir un monde durable? Et ça, c'est une question qui nous concerne tous aujourd'hui.
Oui, absolument. Et ce que l'IRD essaye de faire, mais qu'elle essaye de faire parce que c'est ce que nous demande, c'est ce qu'exigent nos partenaires sur le terrain des pays où nous intervenons, c'est de tenir les deux bouts de la chaîne. C'est-à-dire, d'une part, d'être au niveau d'excellence de la science mondiale la plus avancée. On en a des exemples tous les jours. Hein. Par exemple, les chercheurs à l'occasion de la lutte contre l'épidémie d'Ebola, dont on reparlera peut-être,
qui sévit encore actuellement,
mais dans l'épidémie de 2014, dont l'épicentre était en Guinée, ça a été l'occasion d'aider au renforcement de capacités de chercheurs de Guinée, de virologistes, de cliniciens, qui aujourd'hui sont parmi les scientifiques qui produisent les choses les plus importantes et les plus intéressantes dans les plus grands journaux scientifiques du monde.
Donc mettre le Sud et le continent africain dans cette carte scientifique mondiale.
Et en même temps, donc on essayait de coopérer avec les collègues pour qu'ils soient, et qu'ils nous aident aussi nous-mêmes d'ailleurs, à être au meilleur niveau de la science mondiale, mais en même temps, pour s'attaquer, c'est la science de la durabilité que vous avez déjà évoquée, Caroline, pour s'attaquer à des problèmes très concrets. Par exemple, on est encore de nouveau en première ligne. Hein. C'est une équipe de l'Institut National de Recherche Biomédicale de la République démocratique du Congo qui cet été a identifié la souche qui n'est pas la même que celle de l'épidémie de 2014 en Guinée, avec, en partenariat avec l'Institut Pasteur, avec l'IRD, et qui donc a fait le premier élément de diagnostic majeur pour la lutte contre l'épidémie qui sévit actuellement.
Alors comment tenir justement ces deux bouts de la chaîne, hein, à la fois la recherche d'excellence et une recherche pour le développement durable, autour de la question quelle recherche au Sud et pour les Suds, quelle science précisément pour soutenir un monde durable? Je propose d'écouter la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Madame Louise Mushikawabo, une des personnalités qui a fait l'ouverture de votre symposium anniversaire en février dernier.
Parmi donc nos priorités communes figure logiquement la jeunesse, qui représente plus de 70% de la population de beaucoup de pays de l'espace francophone, notamment les pays du Sud. Tous ces jeunes, assoiffés de savoir et débordants de créativité, ont besoin de formation et d'accompagnement pour réussir. Par l'appui à des initiatives de recherche innovantes, par la création et la diffusion de contenus numériques éducatifs, par le soutien à la mise en place de diplômes universitaires dans des secteurs novateurs, l'IRD est à nos côtés pour faire en sorte que les jeunes deviennent de vrais acteurs du développement de leur pays. Et nous accompagnons conjointement les incubateurs, comme la Fabrique, cette structure qui, au Burkina Faso, accompagne les projets sociaux des jeunes entrepreneurs et bien d'autres projets très importants. Une autre des priorités de mon mandat de secrétaire général de la francophonie est le partage d'expériences, qui constitue, à mon avis, la raison d'être principale de l'IRD. À ce propos, l'Africaine que je suis ne peut que se féliciter du chemin parcouru par l'IRD, de ce qui était communément appelé la science coloniale, un nouveau modèle de partenariat beaucoup plus équilibré, beaucoup plus équitable, dans lequel les pays des Suds, et je souligne le pluriel que vous aimez à utiliser, cher Jean-Paul Ouati, ont aussi beaucoup à offrir et à partager. Il est très intéressant de voir comment, en 75 ans, l'IRD est passé de l'assistance technique à une confrontation féconde de points de vue, de savoir et de savoir-faire, dans une optique de croissance partagée et de développement responsable.
Vous voulez réagir, Jean-Paul Moitié, à ce que vient de dire la secrétaire générale de la francophonie, Louise Mushikawabo?
C'était un grand honneur qu'elle soit, c'était sa première sortie d'ailleurs en dehors de son organisation. C'était un grand honneur, un grand plaisir qu'elle soit là. Et je crois qu'elle a dit les choses aussi bien, si ce n'est mieux, que je pourrais le faire. Peut-être un mot sur la francophonie.
La science francophone, voilà. ça existe.
Catherine Bréchignac, l'ancienne présidente de l'Académie des sciences, qui est une amie, a coutume de dire que, bien sûr, il y a la défense de la langue française qui est importante et qu'il ne faut faut pas oublier, mais que elle, physicienne, l'essentiel de ses publications et de celles de ses collègues sont en anglais parce que c'est la science internationale, mais que pour autant, si nous avons pas mal de prix Nobel de physique en France, c'est parce qu'on a une façon un petit peu différente de penser, de faire des mathématiques et de la physique, même si le corpus reste le même. Et je crois que c'est ça la bataille principale, c'est qu'on a des expériences liées à nos modèles sociaux aussi, à notre histoire et à notre façon de penser, qui peut apporter une valeur ajoutée à certains pans importants de la science, et qui font qu'on est parfois en francophonie, pas tout seul, mais assez en première ligne pour défendre des idées qui, au départ, ne sont pas majoritaires. Je l'ai vécu quand on a commencé avec des collègues, et aussi quelques collègues américains, mais à se battre pour l'accès aux médicaments essentiels des antirétroviraux pour la lutte contre le sida, nous étions bien isolés.
Et dans le monde de la recherche mondiale.
Et c'est grâce à des expériences de terrain, notamment, pas seulement en Afrique francophone, mais aussi en Asie francophone, au Vietnam par exemple, qu'on a pu faire la démonstration que nous avions raison et que c'était possible. De la même façon, sans la collaboration avec nos collègues latino-américains sur les glaciers andins, on n'aurait pas apporté des choses qui ont été très démonstratives pour la prise de conscience de l'impact du changement climatique. Et c'est pareil, par exemple, avec l'Observatoire de la mousson africaine à Makatch, avec nos collègues africains, qui jouent un rôle très important pour mieux comprendre la mécanique planétaire du changement climatique.
Oui, mécanique d'autant plus importante à comprendre au sud, parce que toute cette zone intertropicale, qui est couverte par les chercheurs de l'IRD et par les correspondants sur place, est quand même la zone la plus vulnérable au changement climatique, plus soumise aux aléas, aux risques, aux vulnérabilités. Mais aussi, vous le dites bien dans cet ouvrage et on s'en rend bien compte, mais aussi peut-être que c'est au sud que les chercheurs sur place, locaux, seront les plus aptes à développer des innovations plus frugales, à soutenir un développement plus durable, cette science de la durabilité. C'est un espoir, ça, qui vient du sud, Jean-Paul Moïse.
C'est-à-dire que effectivement, on insiste beaucoup, et c'est normal, vu que l'essentiel des dépenses de recherche et développement sont concentrées dans les pays du Nord, dans les pays déjà industrialisés et développés, même s'il faut le souligner, aujourd'hui, 45% de la recherche et développement publique et privée mondiale, beaucoup privée, elle vient d'Asie du Sud-Est. Mais ça inclut des puissances émergentes, voire dominantes, comme Singapour, la Corée du Sud et bien sûr la Chine et l'Inde.
Mais comme quoi ça peut changer et les émergents peuvent monter.
Bien sûr, les choses changent extrêmement rapidement dans ce domaine. Il faut s'adapter à cette situation.
Qu'est-ce qui peut venir du Sud justement? Comment relever tous les défis? Parce qu'ils sont innombrables, sur le continent africain notamment, où la recherche, la science n'a pas la part qu'elle devrait avoir. Et on peut comprendre pourquoi aussi, parce qu'il y a d'autres priorités avant.
Je vous raconte une expérience personnelle, avec des collègues de l'Institut de maladies infectieuses de Marseille, qui ont fait l'essentiel du travail. Ils ont mis au point ce qu'on appelle des POC, c'est-à-dire des outils de diagnostic miniaturisés, et dès lors qu'on a un minimum de sources d'électricité, peuvent fonctionner, y compris en brousse, et on les a expérimentés, par exemple, à Niarar, où depuis longtemps, on suit avec les villageois l'évolution des choses, et qui est un des principaux observatoires de la santé en Afrique, au Sénégal. Eh bien, après, on a voulu réimporter plutôt ces POC pour améliorer le fonctionnement des laboratoires au niveau des hôpitaux de Marseille. Je peux vous dire que c'était beaucoup plus facile de les implanter avec les chefs de village sénégalais, d'autant que c'était lié à un apport pour le développement durable,
qu'avec le
système institutionnel et médical français, parce qu'il y avait moins de blocages. Et on le voit bien, l'énergie qui se dégage en matière d'innovation chaque fois que je vais en Afrique sur le terrain est absolument phénoménale. Et je trouve que nos politiques au sens large, européen, toutes tendances confondues, sous-estiment, même s'ils commencent à en prendre conscience, comme en témoignent beaucoup de prises de position récentes et utiles du président de la République française, ont quand même tendance à sous-estimer cet élément-là, et la coopération scientifique est très porteuse et prometteuse pour qu'il y ait des échanges non seulement nord-sud, mais aussi sud-nord, donner un exemple parmi des milliers,
et surtout,
voilà, et aussi des exemples de coopération sud-sud. Et c'est vrai que l'IRD joue parfois un rôle, et même souvent un rôle utile, parce que comme on est présent, voilà, pour aider
d'Asie.
À trianguler entre
Asie,
Amérique latine, par exemple, sur les sols désertiques ou semi-désertiques, il y a beaucoup d'échanges de technologies, de savoir, même si les conditions sont un peu différentes entre certaines régions d'Amérique latine, l'Argentine, le Brésil et les pays d'Afrique, et donc on facilite ou on joue un rôle un peu de médiateur dans ces échanges.
C'est ça, vous êtes intermédiaire ou médiateur dans ces cas-là entre chercheurs de tous les Suds, puisque vous aimez cette expression-là, Jean-Paul Moati, autour de la question qu'elle recherche au Sud et pour les Suds. Allez, on continue de s'interroger en musique. Vous avez choisi d'écouter Femi Kuti and the Positive Source, un choix aussi musical que approprié sur RFI aujourd'hui. How many? Femi Kuti sur RFI, chanson manifeste. How many? Combien de vies innocentes? Combien de désastres? Combien de soulèvements avant qu'ils ne comprennent que la pauvreté est le problème? Vous voulez commenter votre choix musical, Jean-Paul Moati?
Oui, parce que les paroles de la chanson délivrent exactement le même message que ce qui va être le premier du rapport d'évaluation des 4 premières années des objectifs de développement durable pour l'ONU auquel j'ai participé et qui sera présenté en présence des chefs d'État le 24 et 25 septembre prochain à l'Assemblée générale des Nations Unies. En matière de mise en œuvre de ces objectifs de développement durable, on n'est pas simplement en retard, comme on est souvent par rapport à des objectifs de ce type. Non seulement on est en retard, mais sur des domaines absolument essentiels et qui menacent de rendre caduque l'ensemble de l'agenda, qu'il s'agisse de la réduction des inégalités, de la perte de biodiversité, du contrôle des émissions de gaz à effet de serre, ou, problème moins connu mais tout aussi dramatique, de l'aggravation de l'empreinte écologique de nos modes de production et de consommation, bien sûr surtout dans les pays avancés, dans les pays les plus riches. Non seulement on n'est pas du tout dans le tempo pour tenir les objectifs quantitatifs qui ont été fixés, 169 cibles, 17 objectifs pour 2030,
des objectifs de développement durable.
Bien sûr, mais on est en situation de régression. On va dans la mauvaise direction. Soit que pour l'instant, on n'est pas réussi à freiner les tendances d'aggravation des problèmes qui existaient déjà avant les ODD. Le rapport de l'IPBES sur la biodiversité, plus d'un million d'espèces qui sont en risque d'extinction, ça s'est quasiment jamais vu à l'histoire documentée de la planète depuis qu'il y a des humains dessus.
C'est un cri d'alarme que vous lancez dans ce rapport-là avec les experts nommés comme vous par l'ONU.
Absolument, parce que là, on est dans des tendances, soit donc on n'est pas réussi à freiner la régression, soit que on était à la faveur du ralentissement économique lié à la crise de 2008-2011. Ça allait pas trop dans la mauvaise direction et qu'on est reparti vers le mauvais à la faveur de la reprise de la croissance économique parce qu'on n'a pas suffisamment séparé cette croissance, cette amélioration du niveau de vie qui est nécessaire, bien sûr, notamment dans les pays en développement, dans les pays du Sud, de l'empreinte environnementale. Et donc là... il faut vraiment s'alarmer particulièrement. Je dois dire que non seulement à titre personnel, mais aussi à titre de scientifique, je trouve que on est dans la caricature de l'aveuglement quand on voit des responsables politiques ne pas vouloir aller écouter la jeune Suédoise qui certes n'est pas une grande scientifique, mais la mobilisation qu'elle a construite, auquel elle a participé, auquel elle appelle, elle s'appuie, et d'ailleurs c'est pour ça qu'elle sera accompagnée de scientifiques, sur les évidences les plus indiscutables de la science actuelle.
On parle d'environnement, très important, question très importante à venir, que ce qu'on soit au nord ou qu'on soit au sud. Vous êtes au départ, Jean-Paul Moati, spécialiste d'économie de la santé, et vous attirez aussi notre attention sur cette nouvelle approche de santé globale, One Health. C'est très important pour vous ça aussi, on n'a qu'une planète, on n'a qu'un environnement et il est collectif. Et les questions de santé se posent sur toute la planète et ne sont pas cantonnées au sud.
Oui, on a de très nombreux exemples. Le fait de travailler au Sud, des fois, ça, c'est pas qu'on est plus intelligent que les autres, mais on est conduit par la réalité des choses auxquelles on se confronte avec les collègues du terrain, qui font comprendre peut-être plus vite que dans un autre type d'un autre type d'environnement. Par exemple, heureusement que l'IRD j'y suis pour rien, donc je le dis tant plus volontiers, a en quelque sorte sauvé l'entomologie médicale tropicale, parce qu'on est bien content aujourd'hui de comprendre les dynamiques des insectes transmetteurs de la dengue, du chikungunya, de maladies infectieuses extrêmement. Et d'ailleurs, j'ai eu une nouvelle qui m'a ravi aujourd'hui, parce qu'elle boucle la boucle. L'IRD a été très importante dans la lutte contre l'onchocercose, la cécité des rivières, et dans la mise au point, d'ailleurs des chercheurs, pas de l'IRD, ont eu le prix Nobel en 2015 pour cela, de l'ivermectine, qui est le principal médicament utilisé dans cette éradication. Et en même temps, on a été les premiers à mettre au point les moustiquaires imprégnés d'insecticides pour repousser
contre le paludisme. Armes.
Et aujourd'hui, malheureusement, il y a des résistances à ces insecticides, il y a des problèmes, des limites, et on vient d'avoir, je l'ai appris aujourd'hui, le soutien d'Unitaid pour un projet qui associe les chercheurs de l'IRD avec des chercheurs des pays concernés pour voir si on ne peut pas envisager des moustiquaires qui seraient imprégnées de d'ivermectine qui repousse les parasites, et donc pour réaméliorer cet outil que sont les moustiquaires.
Comme quoi, l'importance de ces recherches, de l'importance de ces recherches en collaboration, en partenariat, on l'a dit, Nord-Sud, mais aussi Sud-Sud. Alors, je propose d'écouter une professeure que vous appréciez tout particulièrement, Fabiola Léon-Velarda. Elle est présidente du Conseil national de la science, de la technologie et de l'innovation technologique du Pérou, le CONCITEC, qui est l'équivalent de notre ministère de la Recherche. Elle est aussi présidente du comité d'orientation stratégique de l'IRD. Elle a préfacé également cet ouvrage, 75 ans de recherche au Sud, avec également l'ancien ministre de la Recherche du Sénégal, le mathématicien Marie Tonian. Je propose donc d'écouter un extrait de l'intervention de la professeure Fabiola Léon-Velarde sur les nouvelles approches de santé globale et vous réagirez ensuite, Jean-Paul Moati.
Nous sommes très conscientes que peut-être les plus grands défis pour la recherche, c'est l'urgence pour la santé globale. Et c'est très nécessaire de l'engagement de toutes les connaissances. Mais ça, c'est pas assez. Vraiment, on a besoin de partenariats et de communautés. Sinon, on fera pas vraiment beaucoup. Et, on a plein d'exemples au Pérou où, quand on a traité les maladies d'une façon individuelle, on n'a pas abouti sur des résultats. Et seulement quand on a travaillé avec tous les acteurs, on a commencé à comprendre que c'est juste seulement comme ça qu'on va pouvoir vraiment faire la lutte contre les maladies. Il y a des exemples sur le paludisme où la science et la santé publique doivent agir ensemble. En parlant de paludisme aussi, l'IRD nous a donné une leçon que c'est très important. Pas seulement pour les partages des données qu'on commence à avoir de plus en plus avec les observatoires, mais aussi parce que en tant que l'IRD, il est partout, le continent africain, l'Amérique du Sud et l'Asie, et on a des maladies très communes, notamment les maladies tropicales, le paludisme, la leishmaniose, ou les dengues, etc. Nous, on a aussi les mêmes maladies de l'Amérique du Sud, de l'Amazonie, et on commence à voir avec le changement climatique aussi des maladies dans les petites villes de l'Amazonie, par exemple. Donc là, il faut voir pas seulement la santé avec un traitement local, d'une façon de voir globale, mais aussi globalement sud-sud. C'est pour ça que l'IRD a beaucoup de choses à faire encore, parce que maintenant, on commence à connaître les données et dans tous les pays où l'IRD a commencé à avoir des activités. Mais il faut encore, pas sûrement bien sûr dans la France, mais aussi nous, les pays partenaires, il faut connaître les données et commencer à travailler ensemble.
Comment développer justement ces partenariats sud-sud, Jean-Paul Mathieu? Vous voulez réagir à cet éclairage de la professeure Fabiola Léon Velarda, qui dirige le Conseil national de la science et de la technologie et de la recherche au Pérou.
Oui, alors ça, c'est, enfin, une remarque par rapport à cela, c'est que ce que l'IRD apporte à la recherche française, c'est justement d'incarner un modèle où on n'a pas, comme le font d'autres pays, on se contente pas de projeter notre système au sud. On travaille vraiment avec nos partenaires. Nos chercheurs vont toujours dans les laboratoires de nos partenaires pour travailler avec eux sur la longue durée et sur le terrain, et ça crée des liens indéfectibles. Le nombre de responsables de la recherche scientifique en Afrique, mais aussi, la preuve, au Pérou, qui ont des liens un peu spéciaux avec l'IRD, et ça, c'est un capital, pas simplement pour l'IRD, c'est un capital pour la recherche française dans son ensemble, et même pour la France plus largement, qui n'est peut-être d'ailleurs pas suffisamment exploité, et je me félicite d'ailleurs que nos tutelles, ministère de la Recherche et ministère des Affaires étrangères, s'y intéressent de plus en plus. Alors,
c'est un réseau fécond, hein,
absolument. Et c'est un réseau pour faire de la bonne science. On a déjà donné des exemples, mais aussi on a un peu anticipé en matière d'innovation frugale. Le plein peanut, qui est cette pâte à base d'arachide qui a été mise au point sous forme de brevet par un chercheur de l'IRD dans les années 90, est aujourd'hui un des principaux outils de lutte contre la malnutrition adopté par toutes les organisations internationales concernées.
Parce que dans ces cas-là, il s'agit de questions soulevées par les chercheurs au sud eux-mêmes, par les chercheurs du sud eux-mêmes auxquels il faut répondre, mais aussi de questions de sciences fondamentales, mais qui viennent justement peut-être du sud, comment vous diriez
on a même commencé à en faire sans le savoir à l'IRD, mais il vaut mieux le faire en le sachant. On s'inscrit totalement aujourd'hui dans ce que le rapport auquel j'ai participé des Nations Unies va appeler de ses voeux, c'est-à-dire pas simplement qu'on regarde comment tel ou tel résultat scientifique peut contribuer au développement durable, bien sûr, il faut faire ça, mais l'émergence d'un nouveau champ scientifique interdisciplinaire qui s'appelle la Sustainability Science en anglais, la science de la durabilité.
La science de la durabilité.
Qui est, depuis le début des années 2000, la priorité absolue de la National Academy des Sciences des États-Unis et de l'Académie des sciences chinoises. C'est pas vraiment des marginaux de la communauté scientifique mondiale. Cette sustainability science, cette science de la durabilité, elle fonctionne justement dans l'interdisciplinarité en partant des problèmes rencontrés et qu'il faut essayer de résoudre.
Sont souvent au sud.
Et bien sûr, je donne juste deux exemples justement puisqu'on parlait de l'Amérique latine. On avait fait tout un travail avec les Boliviens sur la carence en nutriments pour expliquer toute une série de problèmes. Et c'est sur la base de ce travail qu'on a pu le développer, l'adapter, l'approfondir au Vietnam et faire ressortir ce qui était complètement ignoré, c'est-à-dire l'importance de ces carences dans des problèmes de développement, notamment de développement des enfants. Je donne un autre exemple sur lequel on travaille beaucoup en ce moment et il vient d'y avoir un papier auquel les chercheurs ont participé dans Science, une des deux plus grandes revues du monde, qui appelait à mettre en place un système mondial de surveillance des maladies des cultures. Parce qu'il faut savoir qu'il y a près de 20% de la totalité des cultures, des cinq principales cultures mondiales qui font la moitié de l'apport calorique pour les populations humaines, qui sont menacées par différentes formes de bioagresseurs, notamment animaux, mais d'autres formes. Et il faut absolument gagner du temps, de la même manière qu'il faut réagir très rapidement aux maladies émergentes humaines, exemple d'Ebola dont on a parlé, il faut réagir très très rapidement aux maladies émergentes pour les cultures. En 2015, des chercheurs, dont certains de l'IRD, ont identifié la mosaïque du manioc au Cambodge. Ils l'ont publié, mais comme il n'y avait pas de système de réaction au niveau de l'intervention pour tirer des leçons, ça s'est étendu à l'ensemble de l'Asie du Sud-Est et ça menace près de 10% des cultures concernées.
Donc il faut réagir vite, tout est globalisé. La recherche, mais aussi les maladies. Et il faut aussi que les chercheurs au Sud, les chercheurs du Sud, arrivent à changer un peu de paradigme aussi, apprennent dans tous les sens et partout, que ce soit au Nord ou au Sud, à faire de la science ouverte. C'est pas évident, où qu'on soit sur la planète. Je propose à ce sujet d'écouter le témoignage de Francine Toumi, très brillante chercheuse congolaise, spécialiste du paludisme. Elle est tout de même la première femme africaine responsable du secrétariat de l'initiative multilatérale sur le paludisme. Elle dirige aujourd'hui le laboratoire de biologie moléculaire et le centre de recherche sur les maladies infectieuses de la cité scientifique à Brazzaville. Écoutez l'éclairage de Francine Toumi pour une science ouverte et partagée au micro de Charlie Dupiot.
La recherche ne se fait pas seule. Donc on ne peut pas imaginer faire de la recherche dans son petit coin. C'est un premier point. Ensuite, Sud-Sud. Aussi, cette coopération doit être renforcée parce que pourquoi aller chercher très loin ce qui se trouve à côté? Mais Nord-Sud, les techniques de pointe à ce jour, à part l'Afrique du Sud, sont dans le Nord. Pourquoi s'en priver? Et il s'agit d'une collaboration, ce n'est pas un rapport colonial de dominé à dominant. Les échantillons, souvent, je suis dans les maladies infectieuses, sont sur notre continent. Vous savez, le transfert de connaissances peut venir du Sud, bien évidemment, par exemple, dans les grandes maladies. Ebola, le découvreur, c'est le professeur Muyembe de RDC, mais les équipements sont dans le Nord. Bon, donc, nous avons besoin l'un de l'autre pour pouvoir comprendre les maladies. Avant, Ebola pouvait être cantonné au centre de l'Afrique, en Afrique centrale, dans la forêt, bon... Pas de danger pour la France ou l'Europe. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le patient avec Ebola, il peut prendre son avion et se retrouver à Paris. Donc, tout cela nous concerne. Donc, la recherche est est un bien commun. On doit partager le partage des données. D'ailleurs, en recherche, maintenant, le partage des données est devenu quelque chose, c'est le Graal. Il faut montrer ces données. Et ça, c'est très bien parce que les données appartiennent à tous, à toute l'humanité.
C'est l'idée de la science ouverte.
Absolument, absolument. Et il est important vraiment de promouvoir cela parce que même sur mon continent, je constate que beaucoup de chercheurs travaillent dans leur coin. Ils ont peur de partager. Il y a la peur de partager les données, la peur de partager le savoir. Je ne sais pas comment ça se fait, mais j'ai constaté cela beaucoup, en tous les cas, en Afrique centrale où je travaille. Et on sait... Et dans les discussions informelles, moi je travaille sur telle donnée, j'ai fait telle étude et aucune publication ne sort. Et il faut que cela change. Il faut absolument que tout le monde, tous les chercheurs nord comme sud, comprennent qu'on va avancer encore plus vite en ouvrant les portes de ses laboratoires et de sa connaissance. Et puis, on n'a pas toutes les expertises dans un centre. Par exemple, dans mon centre, j'ai un biostatisticien, mais il n'est pas senior. Il est encore en cours de formation. Il apprend tous les jours. Donc, un groupe de la London School ou de l'IRD ou ailleurs peut avoir des outils d'analyse encore plus importants et voir ce que nous, nous n'aurions pas vu. Je crois que c'est le président de l'IRD qui a dit que la production scientifique africaine représentait 2% ou était très faible, en tous les cas par rapport à la production scientifique mondiale, certes. Mais il y a beaucoup de données scientifiques produites en Afrique qui dorment justement dans les tiroirs, beaucoup justement. Et que si ces données, pour diverses raisons, mais si ces données étaient mises à jour, on se rendrait compte qu'il y a une manne d'informations qui sont présentes. Donc là, c'est l'illustration, effectivement, du fait que les scientifiques africains gardent jalousement leurs données et qu'il faudrait les sortir un peu plus. Je veux dire, l'intelligence ou l'imagination, la créativité n'est pas l'apanage du Nord. Le Sud, nos jeunes ont aussi cette créativité. On va voir que l'Afrique possède beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations lorsque vraiment tous ces tiroirs vont être ouverts, je pense, vraiment.
Vous voulez réagir, Jean-Paul Moati, à cet éclairage passionné et passionnant de l'éminente chercheuse Francine Toumi?
Oui, la raison pour laquelle l'Afrique a encore une position marginale dans la production scientifique mondiale, 2% seulement, c'est vrai, c'est pas qu'il manque de cerveaux brillants sur le continent africain. Francine en est un exemple. mon ami qu'on a perdu malheureusement
de façon prématurée, voilà,
Numbo du Mali et beaucoup d'autres, et pas simplement dans le domaine de la recherche biomédicale. Moi qui suis un matheux, j'en connais un certain nombre qui sont plus forts que moi. En maths et dont j'ai beaucoup à apprendre. La question c'est plutôt d'avoir les moyens de pouvoir, comme le dit Francine, disposer des équipements, des réseaux internationaux, de la structuration des équipes de recherche. Et l'autre point, effectivement, que souligne Francine et avec lequel je suis bien sûr d'accord, c'est que on voit bien, quand on fait des analyses de la production scientifique, notamment en Amérique latine ou en Asie, où elle est beaucoup plus, elle est beaucoup plus avancée en quantité, en tout cas aujourd'hui, que les pays du Sud, ils arrivent à rayonner au plan international quand ils sont capables de générer des données de bonne qualité. Je ne doute pas qu'on puisse le faire en Afrique. On le fait tous les jours avec les collègues dès qu'ils en ont les moyens. Et aussi de garder le contrôle sur ces données parce que là, du monde entier, la communauté scientifique, l'IRD, mais aussi beaucoup d'autres, ne demandent qu'une chose, c'est d'aller travailler avec eux parce que ces données sont de grande qualité. Et c'est un problème pour la science. Mais c'est aussi un problème pour gérer les questions d'expertise dont on a besoin face aux problèmes planétaires dont on a vu tout à l'heure qu'ils étaient de plus en plus difficiles.
De moyens, vous l'avez dit, de bien moyens sûr. Techniques, de moyens financiers, de moyens humains, de formation aussi.
Bien sûr, c'est toute une chaîne. L'un des points qu'on va mettre en avant dans le rapport, c'est que jusqu'à une période récente, quand on parlait d'éducation, les grands donneurs internationaux et aussi les pouvoirs publics, ils pensaient à une chose qui est effectivement absolument fondamentale, sur lequel c'est peut-être un des rares ODD, on y arrivera à peu près en 2030, c'est l'accès à l'éducation primaire et notamment l'accès à l'éducation primaire pour les petites filles. Ça reste stratégique et fondamental. Mais il faut tenir l'autre bout de la chaîne. Et ça, c'était totalement négligé.
Jusqu'au niveau des universités, des chercheurs, jusqu'au plus haut niveau.
Hein. Voilà, d'autant que les expériences de pays comme la Finlande ou la Corée du Sud montrent bien qu'un investissement massif dans la recherche et dans l'éducation de haut niveau, d'éducation supérieure, est un ferment de rattrapage et de dépassement même pour le développement. Et je suis heureux de constater, même s'il faudrait que ça aille plus vite et plus fort, que maintenant, il y a une évolution de la Banque mondiale, de l'Agence française de développement et des décideurs au plan international. Je crois que un des messages qui a été le mieux perçu il y a quelques jours à New York, quand on a commencé à présenter les résultats préliminaires du rapport, on a été très entendu par les collègues, notamment africains, sur le sujet, pour dire qu'il faut que le soutien à la recherche et à l'éducation supérieure devienne une priorité de l'aide internationale et des partenariats bilatéraux et multilatéraux, parce que s'il n'y a pas ce rattrapage-là, c'est un problème pour la science mondiale. Les modèles climatiques aujourd'hui, s'ils sont pas très bons au niveau régional, c'est parce qu'on manque de données, pas parce qu'ils sont mauvais, hein, notamment dans la zone intertropicale, mais aussi pour le développement des pays et des relations plus justes entre le Nord et le Sud.
Que vous soyez entendu, Jean-Paul Moitié, autour de la question comment faire émerger une recherche ouverte et partagée au Sud. Allez, on s'interroge cette fois-ci d'une rive à l'autre du Congo, de Brazzaville, où l'on salue la professeure Francine Toumi, jusqu'à Kinshasa, avec la nouvelle voix de Kin, Tatiana Anna Cruz sur RFI.
Cruz, Cruz, où elle est?
Mon Fiago.
Lolo Samidi. Tatiana Cruz a gola tamine. Bamon, il a te wa. Lolo vraiment n'a gosa la mine. N'a comme qui wele wele.
Tatiana Cruz sur RFI, la coqueluche de Kinshasa, où vous nous écoutez, chers amis auditeurs, sur 105 FM. Autour de la question, quelle recherche au Sud et pour le Sud, en compagnie du professeur Jean-Paul Moitié, président de l'IRD, qui célèbre ses 75 ans, non, ceux de l'Institut, hein, pas les vôtres, Jean-Paul Moitié, avec de nouvelles interrogations, de nouveaux défis à relever sur notre petite planète qui se transforme, géopolitiquement parlant, et pas toujours pour le meilleur. C'est l'éclairage en forme de question de l'anthropologue Frédéric Schlous, qui était récemment notre invité autour des peuples de la mer.
La question qui me semble vraiment aujourd'hui très importante, c'est vraiment extrêmement politique. Et on voit qu'un certain nombre de pays se transforment, notamment un pays avec lequel l'IRD a beaucoup travaillé, qui est le Brésil. C'est être vigilant sur les études en sciences humaines et sociales dans ces pays qui changent radicalement de politique et notamment vis-à-vis des populations autochtones. Et c'est vrai que là, quand même, je pense que l'IRD a un rôle à jouer parce que ça devient très compliqué de travailler avec les populations autochtones et dans le cadre des sciences humaines et sociales avec le nouveau président. Et là, je pense qu'il faut vraiment être vigilant et qu'on a un rôle à jouer là-dessus. Et la deuxième chose, pour faire assez court, la question des formations est aussi extrêmement importante. Et donc, comment former les collègues et comment nous les former, mais aussi écouter ce qu'ils ont à nous dire. Et une question, moi, qui m'avait particulièrement quand même frappée, c'est la formation des jeunes femmes dans les métiers scientifiques, qui est une vraie question aussi. Et donc, cette vigilance à la fois sur les sciences humaines et sociales, et puis donner accès aux formations aux jeunes femmes, parce que ça ne va pas de soi. Dans plusieurs pays, je me souviens notamment d'une école d'été qu'on avait fait au Vietnam. On était quatre chercheurs femmes, quatre qui venaient de l'IRD, puis moi du muséum. Et les jeunes femmes qui étaient présentes à cette formation étaient étonnées qu'on puisse être directrice de recherche ou professeur, parce que, au plus, elles pouvaient espérer être assistante du professeur masculin. Voilà, ça c'est quand même aussi un sujet qui me touche beaucoup et qui me tient à cœur.
Un sujet qui vous tient aussi à cœur, Jean-Paul Moitié, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les chercheuses qu'on vous a fait entendre, qui vous ont fait réagir, ce ne sont que des chercheuses, justement. On a choisi un plateau de femmes en face de vous, mais ce n'est pas pour vous déplaire, ça, parce que c'est une vraie question.
Bah, sur le premier point de ce que dit Frédéric, et c'est bien qu'on fasse ça en fin d'émission, les scientifiques, en tout cas, dans leur grande majorité, ils n'ont pas forcément demandé cela. Mais moi, personnellement...
Vous réagissez au Brésil, au changement de gouvernement, au président Bolsonaro
Mais pas seulement. Mm-hmm. Moi, personnellement, je pense que c'est la seconde fois dans l'histoire de l'humanité depuis le XVIIIe siècle des Lumières, dans la lutte contre le féodalisme et pour des sociétés plus démocratiques, que la science se retrouve en première ligne, même si on ne l'a pas demandé. Et il faut assumer ces dimensions-là, ces dimensions d'engagement. Et d'ailleurs, les intérêts qui sont en face l'ont bien compris, qui essayent de semer le doute et d'utiliser ce qui est le propre de la science, c'est-à-dire de discuter sans cesse, de s'attaquer aux incertitudes, de remettre en cause les acquis pour aller encore plus loin dans la connaissance, de retourner cela contre l'objectivité et la réalité scientifique. Bien sûr qu'il y a des débats sur le réchauffement climatique entre chercheurs, et c'est très bien qu'il y en ait, mais il y a un consensus comme jamais ou peu de cas dans l'histoire des sciences pour reconnaître la réalité sans précédent et le rôle de l'homme, malheureusement, dans cette transformation fondamentale du climat et les risques qu'il fait courir à la planète et à l'ensemble de nos systèmes.
Donc il faut assumer d'être engagé. Enfin,
oui, d'une certaine façon, aujourd'hui, la défense de l'objectivité scientifique implique un engagement qui peut prendre diverses formes. Moi, je respecte les scientifiques qui n'ont pas envie de se mouiller parce qu'ils préfèrent se consacrer à d'autres choses. Mais en tant qu'institution, les organismes de recherche et bien sûr ceux comme l'IRD qui travaillent avec les pays du Sud, mais pas seulement, on doit assumer nos responsabilités.
Et protéger les chercheurs et permettre aux chercheurs de travailler.
Bien sûr. Et par exemple, c'est sous diverses formes. Par exemple, j'étais il n'y a pas très longtemps au Mali pour fêter les 75 ans, parce qu'il se trouve que le Premier ministre actuel du Mali est un de mes anciens doctorants, qui a bien fait son chemin, malheureusement pas dans la recherche, mais c'est quand même pas mal. Et justement, il insistait sur le fait que, en dehors de la coopération militaire qui est nécessaire dans la lutte contre le terrorisme djihadiste, heureusement qu'il y a l'IRD et d'autres institutions françaises qui maintiennent de la coopération scientifique et technologique pour justement montrer que le partenariat avec ces pays, c'est pas seulement un problème militaire, même s'il est important et criant, mais qu'il doit recouvrir évidemment les autres aspects, les autres dimensions du développement.
Et du côté des femmes, évidemment, des chercheuses, c'est une vraie question partout, c'est une vraie question aussi dans les pays du Sud, où les chercheuses sont extrêmement nombreuses, mais c'est pareil, pour monter...
Ce qui est très intéressant et qu'on souligne dans le rapport, c'est par exemple un collègue jamaïcain qui disait cela à partir de l'expérience et des données qu'il avait sur la Jamaïque, mais c'est que même dans les pays, et il y en a, c'est le cas de la Jamaïque, mais il y en a d'autres, où jusqu'au cursus secondaire, les filles sont aussi bonnes, voire meilleures dans les disciplines scientifiques, c'est souvent le cas, que les garçons. Ensuite, il y en a beaucoup moins qui se lancent dans des carrières scientifiques, et puis ce déficit y continue. C'est-à-dire, parmi celles qui se lancent dans les carrières scientifiques, il y en a trop peu, il y en a moins qui accèdent, même à proportion de leur nombre, à des fonctions de responsabilité. Et donc, il faut à la fois s'attaquer aux causes structurelles de cela.
Dans les sociétés.
Dans les sociétés, et puis par des mesures concrètes d'accès aux formations mathématiques, scientifiques pour les filles. Mais aussi, quand on peut, c'est ce que j'ai essayé de faire à l'IRD, il faut systématiquement respecter la parité dans les nominations, dans la prise de responsabilité, chaque fois qu'on le peut.
Et mettre en avant les femmes chercheuses que nous avons essayé de faire au cours de cette émission.
C'est ce que vous avez fait, mais comme vous l'avez montré, vous auriez pu, il y en a de très nombreuses autres.
Et oui, on en a laissé de côté, dommage. Ce sera pour une prochaine. Merci en tout cas Jean-Paul Moiti d'avoir fait escale dans notre studio sur RFI. Je rappelle donc le titre de cet ouvrage collectif qui vient de paraître, Science et développement durable, 75 ans de recherche au Sud, pour apprécier davantage cette science universelle durable et équitable, et c'est publié aux éditions de l'IRD. Merci à vous Jean-Paul Moiti.
Merci beaucoup, merci de nous avoir écoutés.
Pour nous contacter, autour de la question @rfi.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur le site de RFI et sur l'appli RFI Pure Radio. Au plaisir de vous retrouver demain, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses, en compagnie du professeur Thomas Romer du Collège de France et de l'Institut des Civilisations. Autour de la question, pourquoi la Bible n'est pas tombée du ciel, nous demanderons comment l'archéologie peut éclairer les textes bibliques. Bible et archéologie, une liaison dangereuse et nécessaire. À suivre demain. Merci de votre curiosité. Surtout gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. Sur RFI, c'est bientôt l'heure des informations.